Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais, animée par Samia Sider, coordinatrice de l'association.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Plan B, l'émission radio du Bistrot Mémoire Rennais qui vous parle d'un sujet qui nous concerne tous, les troubles de la mémoire. Que vous soyez distrait ou diagnostiqué, aidant ou bienveillant, ou tout simplement engagé sur les questions de citoyenneté et d'inclusion, sur Plan B, on partage ensemble les trucs et astuces du quotidien, les relais et ressources sur le territoire et tout un tas d'initiatives inspirantes pour les personnes vivant avec une démence, pour que vous puissiez, vous aussi, porter un nouveau regard sur les maladies neuroévolutives. Mobilité et troubles cognitifs, c'est le thème de l'émission que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. En compagnie d'Amandine Bénard, qui nous guidera sur les capacités cognitives que nous mobilisons pour nous déplacer d'un point A à un point B, vous verrez que c'est complexe. Alina Joncy nous emmènera à la rencontre de Frédéric Coutant, aidant et passionné de vélo, de Pierre Fauvel, coprésident de l'association grégorienne À Vélo Sans Âge, et enfin de Aurélie Cros, responsable information voyageurs et accessibilité à Keolis. Nous verrons qu'il existe plusieurs solutions pour se déplacer à Rennes à moindre coût, économique, physique et psychique, vous verrez. À suivre la rubrique Santé publique, on vous dit tout, animée à présent par Mathilde Chaunier, notre nouvelle recrue en service civique qui prend le relais d'Anna El-Kadioui El-Idrissi, que nous saluons d'ailleurs. Même objectif, faciliter vos recherches sur les ressources que vous pouvez solliciter pour profiter pleinement de la ville et de ses environs. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Et maintenant, la rubrique d'Amandine Bénard, les troubles de la mémoire, parlons-en. Bonjour Amandine.
Bonjour Samia.
Alors, se déplacer chez soi ou en dehors, c'est assez complexe dans la planification des tâches. On va pouvoir se faire une idée de ce que vivent les personnes concernées par des troubles de l'orientation spatio-temporelle.
Eh oui, effectivement, la mobilité. Alors, quand on pense à la mobilité, pour ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est de pouvoir se mouvoir, se bouger. On pense tout de suite aux capacités motrices, celles qui vont vous permettre de marcher. Mais heureusement, même quand on ne marche pas, on peut quand même se déplacer. Par exemple, avec un fauteuil roulant. Alors, si on analyse d'un peu plus près, être mobile ne se résume pas qu'à une action motrice. Dans notre quotidien, nos déplacements sont rarement sans but précis. Ils sont toujours orientés vers un objectif. Je me lève pour aller aux toilettes, pour me rendre à un rendez-vous. Être mobile dans cette situation va mettre en jeu un ensemble de capacités cognitives, donc des capacités qui sont régies par le cerveau. Il est vrai que tant qu'on n'a pas de problème de mobilité, on ne se rend pas vraiment compte de tous les processus qui vont être sollicités.
Il suffit d'ailleurs de partir sans GPS pour se faire une petite idée des facteurs de stress qui peuvent aussi faire partie du voyage.
Et oui, tout à fait. Justement, nous allons tenter de comprendre un peu plus toutes ces fonctions en s'intéressant de plus près à des personnes qui ont des difficultés de mobilité. Et c'est le cas d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors dans cette maladie, les premières difficultés auxquelles on va tout de suite penser, ce sont les troubles de la mémoire et aussi la désorientation temporelle et spatiale. Ces capacités sont étroitement liées. Nous disposons de plusieurs mémoires et dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire qui va être touchée en priorité, c'est la mémoire épisodique. Un terme un peu compliqué, mais intéressant, car il y a le mot épisode. En effet, cette mémoire renvoie à des épisodes qui vont être enregistrés dans un contexte temporel et spatial. Tous les indices spatiaux que je vais pouvoir enregistrer le long de mes déplacements, donc ça peut être la couleur de l'enseigne du magasin, le nom de la rue, ils vont me permettre par la suite de me reconnaître sur mon chemin. Et quand cette mémoire elle est touchée, ce processus d'enregistrement ainsi que le stockage de ces informations va être altéré, ce qui va favoriser une désorientation dans l'espace. L'orientation dans le temps est également nécessaire dans mes déplacements. Si je ne sais plus quel jour je vis, ou encore l'heure qu'il est, comment je vais pouvoir me rendre à mon rendez-vous? Or, ces problèmes d'enregistrement et de stockage vont empêcher aussi les personnes de collecter des indices temporels, tels que la lecture de l'heure sur une horloge, ou du temps qu'il fait dehors qui va me renseigner sur la saison, ou encore du souvenir du dernier repas que j'ai réalisé aujourd'hui. Est-ce que j'ai mangé mon petit déjeuner, ou est-ce que j'ai mangé mon déjeuner? Avant même d'engager un déplacement, l'orientation dans le temps va être sollicitée. Alors tout ça, ça va nous permettre par exemple, comme je parlais de la saison, d'adapter notre tenue en fonction du temps pour pouvoir sortir dans mon déplacement. Je vais pouvoir prendre mon parapluie par exemple. Un déplacement, dès qu'il est orienté vers un but, il va nécessiter un minimum d'anticipation. Alors reprenons par exemple quand on veut aller à un rendez-vous. Ça s'avère que aller à un rendez-vous, c'est quand même un déplacement assez compliqué. Afin d'y être à l'heure, je vais devoir en amont me poser certaines questions. Donc, comment je vais m'y rendre? Ça peut être à pied, en voiture, en bus. Combien de temps le trajet va me prendre? Ce qui va conditionner forcément l'heure de mon départ. Que dois-je emmener à ce rendez-vous? De l'argent, des papiers médicaux? Vous voyez bien qu'on réfléchit à tout ça avant. On va donc devoir planifier notre déplacement pour que ce dernier soit bien réalisé. La planification, c'est une capacité cognitive régie par le cerveau et qui malheureusement est perturbée dans la maladie d'Alzheimer. On la retrouve aussi, cette capacité perturbée, chez les personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, les AVC, ou encore un traumatisme crânien. Donc avant même d'être mobile, vous voyez déjà l'ampleur de tout ce que cela implique. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Une fois que j'ai entamé mon déplacement, d'autres capacités vont être sollicitées. Il est rare que tout se déroule comme vous l'aviez anticipé. Vous êtes parti à votre rendez-vous en voiture et malheureusement un accident survient sur le trajet. Vous devez donc modifier ce trajet afin de pouvoir arriver à l'heure ou encore appeler pour prévenir de votre retard. Dans ces situations, il va falloir s'adapter au changement. Ça aussi, c'est une capacité qui est très sollicitée dans les déplacements. Cette capacité d'adaptation est aussi altérée dans la maladie d'Alzheimer. Et si vous aviez pris le métro pour vous rendre à votre rendez-vous, d'autres capacités vont être mises en marche, telles que l'attention ou l'inhibition. Vous allez devoir vous concentrer, être attentif pour descendre au bon arrêt. Ne pas vous laisser parasiter par tout ce qui vous entoure. Il y a des bruits, les conversations des autres, les différents mouvements que vous pouvez avoir autour de vous. Pour atteindre votre but, vous allez devoir vraiment vous concentrer et ne pas louper votre arrêt. Un petit aperçu audio de cet environnement qui peut être parfois parasitant. Même sans avoir de maladie, vous avez remarqué que cette ambiance sonore, elle n'est pas très agréable. Alors imaginez, pour une personne avec des troubles qui impactent toutes les capacités qu'on a évoquées avant, donc toutes ces capacités, ce sont donc la mémoire, l'orientation spatiale, temporelle, la planification, l'anticipation, l'adaptation au changement au cours d'un déplacement, l'attention et l'inhibition. Votre trajet se révèle alors fatigant, source d'anxiété, un vrai parcours de combattant. Je pense que maintenant, vous ne regarderez plus votre déplacement du même œil.
Merci Amandine pour ces explications. On mesure toute l'importance d'être sensibilisé aux particularités sensorielles que peuvent avoir les personnes concernées par l'autisme ou par des troubles sensoriels et ou neuroévolutifs, ce qui est le cas de notre public. Il y a d'ailleurs des expérimentations qui ont pu être accompagnées sur Rennes par l'association ABA, que vous connaissez certainement, qui, elle, a milité et permis la mise en place de temps calmes dans plusieurs espaces recevant du public, dont le Centre Alma, qui propose des temps calmes tous les jours de 14h à 17h depuis le 22 janvier 2020. On marque une petite pause musicale avant de retrouver Alina Joncy. On écoute le groupe Fall avec leur titre « Wake Me Up », ça va nous donner envie de bouger puisqu'on est sur le thème de la mobilité. On se retrouve après. Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot et moi Rennais. C'était le groupe Falls avec leur titre Wake Me Up. Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistro et moi Rennais. Vous êtes sur Canal B. Et maintenant, la rubrique d'Alina Joncy. Rien pour nous, sans nous. Bonjour Alina.
Bonjour.
Alors nous venons d'évoquer avec Amandine les effets de l'environnement dans les transports en commun, centres commerciaux et les stratégies ou solutions qui peuvent être mises en place pour faciliter la mobilité de notre public. Vous aviez envie de partager avec nos auditeurs d'autres initiatives pour les personnes plus avancées dans la maladie.
Oui, Amandine Benner nous a présenté les difficultés des personnes vivant avec des troubles cognitifs dans l'usage du transport en commun. Je souhaitais alors partager avec nos auditeurs deux exemples de déplacements doux qui leur permettront de continuer à se déplacer sans voiture dans leur vie quotidienne. Écoutons tout d'abord le témoignage de Frédéric, aidant principal de sa femme âgée aujourd'hui de 53 ans, chez qui la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée à l'âge de 48 ans. Je l'ai retrouvé dans son jardin au début de novembre pour parler de son invention. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter.
Bonjour Frédéric, merci de nous recevoir ici. Vous êtes reconnu au Bistro Mémoire pour votre grande passion pour les vélos. Vous êtes, entre autres, un des piliers de l'action annuelle La Bourse Vélo. Cette passion qui vous a inspiré pour rechercher un triporteur adapté pour votre femme?
Tassina, au début de sa maladie, utilisait encore son vélo, mais c'est devenu de plus en plus compliqué et plus dangereux. Donc du coup, pour pallier à ça, on est passé sur un tandem. C'est moi qui assurais la conduite. Tandem, c'est pareil, ça demande une coordination qui est devenue impossible au bout de quelques mois. Mm-hmm. Donc du coup, on s'est retrouvé à pied et là, c'est un peu compliqué pour nous, pour nos, tous nos déplacements. Donc, du coup, j'ai cherché un moyen de transport adapté, toujours sans moteur. Et donc, j'ai pensé à aménager un triporteur électrique. Donc, c'est un triporteur, on va dire, classique. Voilà. Le conducteur derrière et une caisse à l'avant, une grosse caisse à l'avant. Au départ, c'est un modèle de Babou qui est fait pour transporter soit des animaux, soit des enfants.
D'accord.
Mais donc là, le but, c'était de transporter un adulte. Donc du coup, on a dû le réaménager. Donc j'ai mis une banquette avec un siège de scooter suspendu pour un peu de confort, un dossier pour mettre derrière la nuque. Et comme c'est un adulte, j'ai aussi rajouté des mains courantes.
D'accord.
Pour qu'elle soit, voilà, que ça surélève un peu la chose et qu'elle se sente voilà, plus en sécurité. Mm-hmm.
Je vois aussi qu'il y a la ceinture. Voilà. Donc elle a...
Et comme en fait c'est adapté pour un cineur, comme c'est une personne handicapée, en cas de panique où on ne sait pas ce qui peut lui passer par la tête, donc on a rajouté une ceinture, voilà, pour sécuriser tout pour la rue.
Alors là, vous avez évoqué cette notion d'aménagement, donc parlez-nous peut-être encore comment ça se fait, donc à partir de l'idée de trouver un triporteur.
Donc j'ai regardé d'abord ce qui se faisait sur les sites marchands pour handicapés.
D'accord.
Tout ce qui est triporteur ou tandem handicapé, le souci c'est que c'est un coût exorbitant.
D'accord, ça coûte tout simplement trop cher. Donc les produits qui sont vendus déjà prêts.
Déjà tout fait, on est vite à 7000 euros, enfin oui. Prix minimum on va dire.
D'accord.
Donc c'est un peu hors de portée pour le commun des mortels. Après, j'avais pensé donc faire tout l'aménagement de A à Z et racheter un triporteur classique sans moteur. Il y a des associations sur Rennes, il y a ma Human Lab là qui aide à faire des aménagements de ce type, mais bon, ça demandait quand même du temps. Fallait trouver un triporteur d'occasion pour mettre un moteur. Enfin, voilà, c'était compliqué en termes de temps. On a quand même un planning qui est assez serré avec une personne handicapée.
Chargé,
ouais, c'est un peu du temps chargé. Donc du coup, j'ai regardé ce qui était le plus facilement réalisable et donc j'ai trouvé un triporteur électrique. Et là, en gros, il n'y avait plus que le siège à rajouter, donc c'était à la portée d'un bricoleur, quoi.
D'accord.
Et surtout que le coût étant beaucoup plus bas, en faisant un dossier, on a réussi à avoir une aide de la MDPH qui a financé le triporteur à 50%.
MDPH, est-ce que vous pouvez...
Ben, c'est la maison du handicap.
D'accord, qu'on trouve à Rennes au
CLIC. Et ça, voilà, en montant un dossier, en expliquant les atouts, l'utilisation qu'on en aurait, On a eu une subvention qui a permis de financer la moitié, donc ça revient à un coût quand même pour le prix d'un vélo électrique classique. On a quelque chose d'adapté au handicap, c'est quand même très, très pratique. Quoi.
D'accord, donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. Donc il faut monter un dossier, argumenter, mettre aussi sa propre, son énergie, effectivement, ou chercher une association qui peut nous aider. Mais c'est l'envoi, c'est à portée de toute personne qui peut être intéressée par le même type de démarche.
Ouais, c'est pas impossible à réaliser, parce que une fois qu'on a le triporteur électrique, après c'est juste rajouter un siège à l'intérieur. Enfin,
d'accord.
Là, c'est n'importe quel bricoleur, enfin un peu bricoleur, c'est une planche et puis un siège de scooter acheté sur Internet. Enfin, ça va assez vite, quoi. Ouais, c'est facilement réalisable.
Donc, si on veut être vraiment très précis, on avait évoqué au début d'entretien le coût d'environ à partir de 7 euros pour quelque chose qui serait déjà adapté sur un site marchand.
Là,
à combien coût, ça reviendrait au total
Là, le coût total, le vélo en lui-même, c'est dans les 2500 euros. Après, l'aménagement intérieur, il y a le siège, le petit dossier, la planche, on va avoir pour 200 euros. La ceinture de sécurité, c'est quelque chose de bricolé avec une sangle. Donc ça, ça coûte rien en gros. Ouais, on est à 200 euros de plus de matériel, quoi. 200, 250 euros, peut-être, à peu près, quoi. Donc ça fait 2750 et on retire 1250 de la maison du handicap.
De la subvention.
Donc ça nous fait 1500 euros à l'arrivée, quoi.
D'accord. 1500 euros, vous avez aujourd'hui un triporteur adapté. Peut-être pour finir notre entretien, est-ce que vous auriez quelques impressions par rapport à comment votre femme apprécie ce triporteur, comment elle s'y sent
Le triporteur, c'est bien. Enfin, au début, on avait pensé peut-être à un vélo cargo, mais le triporteur, c'est quand même plus stable vu qu'il y a les deux roues, c'est plus large.
D'accord.
Je pense qu'elle se sent plus en sécurité. Mm-hmm. Et puis, c'est plus facile d'accès parce qu'il y a juste une petite marche, là. Enfin, pour elle, c'est mieux. Et après, au début, elle jouait à la star parce que tout le monde la regarde. Donc elle faisait des coups de poing à la main aux gens qui la regardaient au bord du trottoir, donc ça c'était assez sympa. Et puis non, pour utilisation courante, maintenant qu'elle est habituée, c'est idéal.
Merci beaucoup, c'est vraiment l'exemple encourageant aussi pour d'autres personnes qui cherchent ces solutions alternatives au déplacement pour laisser tomber la voiture et continuer à se déplacer en vélo, donc en triporteur. Et puis, il me reste de vous souhaiter de belles balades.
Je remercie Frédéric pour son témoignage et le partage de ses astuces. J'en profite pour préciser que ce tricycle permet au couple une autonomie de déplacement d'environ 30 km sans recharger la batterie des triporteurs. De quoi prévoir des chouettes balades autour de Rennes. Côté pratique, la MDPH, Maison départementale de personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, se trouve à Rennes dans le quartier Beauregard, au 13 avenue des Cussillers. Vous pourrez même faire une digne pierre de coup en allant à la rencontre de l'association My Human Kit, les Human Lab, les locaux étant juste à côté de avenue du Bois-l'Abbé.
Alina, pour celles et ceux qui ne sont pas très bricoleurs, rassurez-nous, il existe d'autres solutions pour aller se balader en vélo avec un proche en perte d'autonomie ?
Oui. Je voudrais partager avec nos auditeurs un autre exemple de mobilité douce. C'est une action lancée dans la commune de Saint-Grégoire à destination de personnes en perte d'autonomie. Je vous invite à écouter Pierre Fauvel. Très belle rencontre des bénévoles passionnés et engagés avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger lors de nos actions sur la commune. Grâce à une expérimentation de lutte contre l'isolement des aînés que nous menons avec l'association Solidage et la ville de Saint-Grégoire. On l'écoute.
Bonjour Pierre, merci.
Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir chez vous, dans votre maison. Donc aujourd'hui, vous êtes co-responsable de l'association À Vélo Sans Âge. Dites-nous finalement, comment cette association arrive à Saint-Grégoire ?
Alors, d'abord, ce n'est pas une association, c'est une antenne.
Donc, voilà. On a effectivement Saint-Grégoire, une antenne,
oui,
qui aujourd'hui est quand même nouvelle.
Oui.
Donc, probablement avec beaucoup, beaucoup de dynamisme. Racontez-nous comment ça se passe et surtout en quoi correspondent votre engagement, vos activités ?
Eh bien, écoutez, la philosophie, une des philosophies de À Vélo Sans Âge, c'est d'amener, pour les gens qui ne peuvent plus se déplacer, c'est-à-dire des personnes dépendantes, de sortir par des balades en tricycle.
D'accord.
Le but, c'est uniquement un but non commercial, mais c'est uniquement un but de loisir.
Donc, si je comprends bien, vous avez un tricycle à disposition, c'est ça ?
Alors oui, et ça c'était une expérience qui est très intéressante. Je parlais tout à l'heure d'une antenne qui est rattachée à l'association nationale. Lorsqu'on est adoubé donc par l'association nationale, c'est à nous de trouver, de fonctionner et de trouver les fonds auprès des élus ou auprès des entreprises pour pouvoir acquérir le tricycle, lequel tricycle devient, on en devient propriétaire. Et on le met à disposition des personnes. Donc c'est un investissement, c'est surtout une richesse parce que ça fonctionne. Donc je parle un peu de l'antenne, nous sommes trois responsables, Maud, Daniel et moi, et il nous faut également ce qu'on appelle des pilotes pour piloter, pour conduire ce tricycle.
Et parce que je ne cache pas à nos auditeurs que je l'avais déjà vu, ce fameux tricycle,
oui.
Et il y a quand même une belle particularité.
Dans le tricycle, oui, parce qu'il est présenté de façon à ce que les gens soient assis devant.
Voilà.
Hein, et qu'ils regardent la nature. C'est-à-dire, on est très sensible au fait que les personnes, quand on commence à rouler avec elles, sont émerveillées de pouvoir redécouvrir ce qui est dehors.
D'accord. Donc, on peut mettre combien de personnes devant ?
Deux personnes, plus le pilote qui est donc derrière. Voilà.
D'accord. Mmh. Donc les pilotes, vous avez parlé des pilotes.
Oui.
Qui sont-ils ?
Alors, les pilotes, ce sont des gens qui sont intéressés, qu'on connaît, qu'on a connus et tout ça, et avec qui on se rencontre. D'ailleurs, une chose qui est curieuse, dès le début, l'association nous a dit, écoutez, pour les pilotes, il en faut, effectivement, mais vous verrez, quand vous aurez le tricycle, il y aura des gens qui viendront se proposer pour être pilote. Donc, pour être pilote, c'est un peu d'expérience quand même, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec ce tricycle. Mais ce sont des gens qui sont disponibles et qui se mettent à disposition pour pouvoir sortir les personnes.
D'accord. Donc, j'imagine que c'est un tricycle électrique.
Ah, c'est sans, bien entendu. Attention.
C'est pas trop difficile pour le transport de deux personnes.
Ça va. Non, c'est vrai.
J'ai trouve ça particulièrement intéressant, effectivement, le fait d'avoir deux personnes qui peuvent en même temps papoter ensemble, échanger, tout en participant à la balade. Dites-moi, comment ça fonctionne aujourd'hui ? Si moi, je suis intéressée, ou dans mon voisinage, il y a peut-être une voisine âgée qui aurait envie de sortir avec vous, comment on peut vous contacter aujourd'hui sur Saint-Grégoire ?
Eh bien, on a une permanence, effectivement, téléphonique, donc à la disposition. Comment ça fonctionne ? L'antenne gère l'exploitation du tricycle. Ensuite, on travaille à venir avec une association qui s'appelle Tuba, pour des polyhandicapés traumatisés à Saint-Grégoire. Donc, ça y est, il y a une convention de passé. On va sans doute en passer une avec le CCAS, c'est-à-dire la mairie, pour les personnes qui sont à domicile. Et en 2022, début 2022, on a bon espoir que l'EHPAD de Saint-Grégoire sera également un de nos partenaires. La majeure partie des gens, ce sont des gens qui sont dans des maisons typées pad, type, disons, lieu de vie ou n'importe quoi. Mmh. Et également, on est disponible pour ceux qui sont, les personnes qui sont chez elles. Et actuellement, on sort surtout avec les personnes qui sont chez elles.
D'accord. Et on vous contacte comment, alors?
Eh bien, par un numéro de téléphone, et c'est à disposition des gens le lundi de 10h à 13h. On a une permanence. Autrement, ils peuvent laisser un message et on les rappelle. Et on leur propose, en fonction de leur désir et tout, on leur propose des créneaux qui sont disponibles. Et c'est là qu'interviennent donc ces fameux pilotes qui sont en charge d'aller chercher les gens, d'accord ? À leur domicile pour l'instant. Ou à une maison quand c'était une maison.
D'accord. Donc, on va peut-être créer quelques frustrations, mais si je comprends bien, vous vous adressez uniquement aux personnes qui vivent à Saint-Grégoire.
Pour l'instant, oui, mais on a l'espoir, je pense qu'on va arriver, parce que c'est très long à mettre en place. On nous avait prévenu au début qu'il fallait 18 mois à 2 ans, et lorsqu'on voit la première étape qui a été liée fin 2019, ça fait 2 ans, et on a vraiment commencé à être opérationnel au début d'automne cette année.
Pierre, je vous remercie beaucoup. Enfin, dites-moi, pour finir, toute dernière chose, en s'y sont comment, c'est quoi vos retours des personnes âgées qui sont assises devant on se sent en sécurité.
Alors ça, c'est vraiment une joie, c'est de les entendre, de voir les choses qu'elles ont connues ou pas connues, mais de retrouver l'air alors qu'elles n'ont plus l'occasion de sortir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Pour elle, certainement, et pour nous également.
Ben, merci beaucoup, Pierre. Félicitations pour la création de cette antenne et ce que vous faites auprès de personnes âgées.
Mm-hmm. Je vous en prie. Au revoir.
On vient d'entendre l'exemple d'initiative qui, selon moi, fait rêver.
Alina, vous et moi, malheureusement, ne sommes pas encore prioritaires pour profiter de cette belle initiative. Je vous vois venir. Mais rassurez-vous pas, ça viendra plus vite qu'on ne l'imagine. Je nous vois déjà.
Oui, je me sens rassurée. Mais en attendant, il sera intéressant de proposer cette action dans chaque commune. Alors, si vous vous sentez inspiré et motivé par cette action, n'hésitez pas de contacter l'association par mail. saint.gregoire@avelosansage.fr.
Sans accent à chaque mot. Hein.
Oui, Samia. Toutes ces informations seront accessibles sur le site de l'association www.bistromémoirerennais.com.
Merci Alina. À Rennes, nous n'avons pas encore d'antenne à vélo sans âge, mais ça ne saurait tarder suite à votre appel. Mais on a un réseau de transport mobilisé sur cette question de l'accessibilité. On marque une pause musicale avant de vous retrouver avec Aurélie Cros, responsable accessibilité au service Keolis. Je vous propose d'écouter, sur les conseils de Valentin Leparoux toujours, Mac DeMarco, Chamber of Reflection.
Thank you.
C'était Mac DeMarco avec le titre Chamber of Reflection. Vous êtes sur Plan B, l'émission du Bistro Mémoire sur Canal B. Alina, avec les ambassadeurs qui, je le rappelle, sont les membres de l'association touchés par la maladie et qui militent à nos côtés, vous êtes allée sur le terrain pour partager les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui à Rennes les personnes concernées par des troubles neuroévolutifs, avec l'idée de pouvoir faire remonter à Keolis les pistes d'amélioration possibles.
Oui. Revenant donc au transport public en commun. Comme soulignait Amandine Bénard au début d'émission, cette forme de mobilité est particulièrement difficile pour les personnes vivant avec des troubles cognitifs. Récemment, notre association a pu participer à une expérimentation menée à Rennes par le réseau Star. Elle vise à adapter la communication visuelle pour ses passagers. J'ai donc décidé de rencontrer Madame Aurélie Kraus, responsable information voyageurs et accessibilité chez Keolis, pour mieux comprendre le contexte et les objectifs de cette expérimentation.
Bonjour Madame Kraus.
Bonjour.
Notre association a pu participer à une expérimentation proposée récemment par le réseau Star. Est-ce que vous voulez bien expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette expérimentation ?
Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'une expérimentation qui a pour thématique la signalétique adaptée. Donc, la signalétique adaptée, qu'est-ce que c'est ? C'est une signalétique qui repose sur des éléments visuels simplifiés et dont l'objectif est de finalement aider au repérage et à l'utilisation du réseau Star. Donc, en fait, cette signalétique adaptée, elle est principalement destinée aux personnes qui ont des troubles cognitifs, troubles mentaux, psychiques ou intellectuels. Et ça vise en fait à les aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on utilise le réseau, par exemple, dans ce qui a pu être testé, où est-ce qu'on se place pour prendre le bus au bon endroit, comment est-ce qu'on utilise le distributeur de titres de transport. Ou troisième exemple, comment est-ce qu'on respecte la consigne de laisser les voyageurs descendre de la rame de métro avant de monter ? Donc ces éléments visuels ou sonores parfois, adaptés, sont simplifiés et donc doivent aider les voyageurs en situation de fragilité à bien comprendre comment est-ce qu'on s'y prend sur le réseau.
D'accord, c'est une thématique qui est effectivement extrêmement intéressante pour notre association. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment on arrive à cette expérimentation ? Qui est à l'origine de cette réflexion ?
Keolis Rennes, en tant qu'exploitant du réseau Star, travaille avec Rennes Métropole sur l'accessibilité du réseau depuis de nombreuses années. Donc on a à cœur que la prise en compte de toutes les fragilités soit effective sur le réseau Star. Et donc on s'est historiquement beaucoup intéressé aux fragilités motrices et depuis quelques temps on se dit qu'il faut aussi s'intéresser aux fragilités qui peuvent être cognitives, par exemple intellectuelles, psychiques, etc. Et pour cela du coup on travaille avec certaines associations, on regarde ce qui se fait dans d'autres réseaux de transport ou encore sur d'autres thématiques d'accueil au public et on expérimente, on fait des nouvelles choses. Donc récemment, on a produit notre guide accessibilité en format facile à lire et à comprendre, qui est un type de rédaction adapté et du coup qui permet aux lecteurs ou aux non-lecteurs de mieux comprendre, on va dire, plus facilement les consignes. On a aussi développé des nouveaux services comme Star Me Guide, qui permet aux voyageurs de bénéficier d'un accompagnateur sur le réseau, ou encore les parcours découvertes qui permettent d'apprendre à utiliser le réseau en groupe avec un animateur. Et donc tout ça, en fait, ça alimente nos réflexions et l'expérimentation signalétique adaptée, ça vient en complément de toutes ces actions qui ont vocation à prendre en compte au mieux les voyageurs fragiles.
Donc effectivement, il y a une démarche globale, hein, tout ce qui effectivement intéresse aussi notre association, qui s'appuie sur finalement les paroles d'experts, donc les associations qui travaillent au quotidien avec les personnes qui ont des troubles cognitifs. Nous sommes dans une période de test, si je comprends bien. Combien de temps cette période prendra et finalement, quelles sont les perspectives pour cette expérimentation ?
Alors là, on a fait le choix de faire une expérimentation très courte, c'est-à-dire que la signalétique qui a été mise en place est restée une journée. On l'a fait tester par des volontaires de l'association Bistro Mémoire, mais aussi par d'autres associations ou structures telles que des agents des ESAT. Et donc c'était une expérimentation très courte pour essayer de déjà valider un petit peu des principes, évaluer la pertinence de ce dispositif qui est complètement nouveau en fait sur le réseau. Et donc si on estime, si les conclusions qu'on attend prochainement de cette étude sont positives, on travaillera de façon plus approfondie avec Rennes Métropole sur ce sujet-là de la signalétique adaptée.
Donc si l'expérimentation aboutit, on pourra revoir votre signalétique à quel moment ?
Alors ça, c'est difficile à dire parce que ça prend beaucoup de temps à déployer. On a un réseau qui est quand même d'une taille assez importante. Ça se fera sans doute par étapes sur certaines thématiques, mais on espère dans les prochains mois, années, voir des premiers exemples, on va dire, de signalétique adaptée déployée sur le réseau.
Oui, merci beaucoup. On va effectivement suivre cette expérimentation avec beaucoup d'intérêt, en espérant qu'effectivement le changement arrivera, peut-être, pourquoi pas, au cours de l'année prochaine. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous. Au revoir.
Merci Alina. Ces marches exploratoires sont encourageantes. Toutes les réflexions engagées sur la signalétique, que ce soit pour les personnes en situation de handicap physique ou psychique, seront au final au bénéfice de tous. On ne peut donc qu'adhérer et se rendre disponible pour les prochaines expérimentations avec Aurélie Cros. Merci à elle. Se quitter, on va faire un point récapitulatif avec Mathilde Chaunier qui nous a rejoint. Bienvenue à vous Mathilde.
Merci.
Et maintenant, la rubrique Santé publique, on vous dit tout, animée aujourd'hui par Mathilde Chaunier. Alors pour continuer à se déplacer à Rennes, lorsqu'on est en situation de handicap, il existe plusieurs services adaptés, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. Bonjour à tous, je suis Mathilde, je suis en dernière année d'école d'assistante sociale et en service civique au Bistro Mémoire Rennais. Et j'aurai le plaisir d'animer à mon tour la rubrique Santé publique, on vous dit tout. À Rennes, il existe des services qui peuvent être des facilitateurs à notre mobilité, surtout quand elle est réduite pour différentes raisons. La STAR, le réseau de métro et bus de Rennes, propose deux services. Il y a la Handistar, peut-être le plus connu de tous, et Star Me Guide, qui est un service plus récent dont vient de nous parler Madame Cros. Handistar, c'est un service à destination des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent prendre les transports en commun seules. Le service propose un accompagnement personnalisé, dit de porte à porte, au sein des 43 communes de Rennes. C'est-à-dire que la navette vient en bas de chez vous, se rend à l'endroit défini préalablement et fait le retour de la même façon. Ce service de transport à la demande est accessible de deux façons. Soit de plein droit pour les personnes en fauteuil roulant ou qui sont malvoyantes, ou bien, après constitution d'un dossier, il y a une commission qui prend la décision d'accorder ou non l'accès à Handistar. Lorsqu'on a accès à ce service, cela donne droit à deux formules. Tout d'abord la formule confort, c'est pour les transports réguliers et occasionnels qui peuvent être anticipés ou qui répondent à une contrainte, comme aller à un rendez-vous médical ou au travail. Pour les transports occasionnels, la réservation se fait par téléphone, jusqu'à la veille ou par mail jusqu'à l'avant-veille. Pour les trajets réguliers, il faut faire une demande via un dossier. La deuxième formule, c'est la formule improvisation. Comme son nom l'indique, c'est pour les trajets imprévus, comme avoir envie d'aller voir ses petits-enfants ou d'aller faire une promenade au Tabor. Il est possible de réserver un transport jusqu'à une heure avant l'heure du départ. Pour la ville de Rennes, le service est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 18h30. Et pour le reste de la métropole, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.
Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistro Mémoire Rennais sur Canal B.
Parlons maintenant de Star Me Guide. C'est un service dédié aux personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'être guidées pour utiliser les transports en commun. À la différence de Handistar, Star Me Guide est un accompagnement à utiliser le réseau existant, tandis que Handistar est un service d'accompagnement à la mobilité. Pour utiliser ce service, il faut être majeur, habitant de Rennes Métropole et être inscrit préalablement. Une fois la réservation faite par téléphone, un accompagnateur attend à une station de métro ou à un arrêt de bus que vous aurez convenu. Et il est chargé de valider le titre, d'assurer les correspondances et de descendre au bon arrêt. L'accompagnateur a également pour mission de vous installer dans le métro ou le bus. L'avantage de ce service, c'est qu'il n'y a pas de surcoût. Le prix est le même qu'un titre de transport classique.
Oui, et ce qui est important de préciser, c'est que pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, ça peut être encore complexe hein, de pouvoir repérer l'arrêt de bus ou, sur lequel il faut se rendre. Mais il existe un autre service encore plus précis et plus adapté, c'est le service des voyageurs dont vous allez nous parler.
Oui, c'est ça. Donc à Rennes, il existe donc les voyageurs de l'association d'Unicité. Unicité, c'est une association avec plusieurs missions, comme le numérique, la transition écologique, la santé, la culture et la solidarité. Ces missions sont assurées par des jeunes volontaires en service civique et chacune d'elles répond à un objectif, comme par exemple la mobilité. Donc le groupe Voyageurs est un groupe de volontaires en service civique qui répondent à cet objectif de mobilité. Ce groupe peut être mobilisé pour de l'accompagnement à la mobilité à pied, dans les transports en commun et parfois, quand cela est possible, en voiture. Les Voyageurs sont mobilisés par des associations du champ de la gérontologie qui connaissent le dispositif. Par exemple, au Bistrot Mémoire, nous avons déjà été en lien avec les jeunes volontaires pour permettre à des personnes âgées de se rendre à nos Bistrots Mémoire.
Volontaires qui, je le précise, sont formés et accompagnés par le Bistrot Mémoire Rennais tout au long de leur mission sur les questions de mobilité et les spécificités des troubles cognitifs et des troubles de l'orientation spatio-temporelle.
Exactement. Je tenais à rajouter aussi que les auxiliaires de vie peuvent être une aide aussi à la mobilité. Parfois, on a besoin d'une auxiliaire de vie pour du ménage, des courses. Mais dans certaines conditions, ces personnes peuvent aussi être un tremplin à la mobilité. Par exemple, pour une balade dans notre quartier, ou bien, pourquoi pas, un accompagnement à notre bistrot mémoire. Une chose que j'ai pu constater à Rennes, c'est qu'il y a les deux services de la STAR dont nous avons parlé, les services civiques d'Unicité, et potentiellement les auxiliaires de vie. Mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Cependant, je vais continuer à chercher et je ne manquerai pas de partager avec vous sur notre site internet www.bistrotmémoirerennais.com toutes les nouvelles infos sur ce thème.
Merci Mathilde, bienvenue dans l'équipe une nouvelle fois. Merci Amandine et Alina, Frédéric Coutan, Pierre Fauvel et Aurélie Cros pour vos témoignages et présentations. Morgane Soularue pour la technique. Plan B c'est terminé mais on vous donne rendez-vous l'année prochaine sur le thème « Rien pour nous, sans nous, rester acteur et citoyen lorsqu'on est touché par des troubles neuroévolutifs ». À très bientôt.
Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais, c'est terminé. You're the good, good, good.